Bonjour et bienvenue à cette édition de Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie, comme chaque semaine, de Mélina Lopez-Nadeau et d'André-Jean Rouleau. Bonjour, camarades.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Et dans le dernier mois, vous vous souvenez, on vous a parlé sans arrêt de l'Halloween et des films d'horreur et compagnie. Mais là, là, c'est fini, là. Mm-hmm. On n'en parle plus.
On passe pas à Noël instantanément? Je suis désolé.
On n'est pas dans une boutique quand même.
Heureusement.
Non, on n'en parle plus du tout. En deuxième demi-heure cette semaine, on s'est dit, tiens, on va faire une critique commune. Ça fait un certain temps qu'on n'en a pas fait. Ça va être la première qu'on va faire avec André-Jean. On va critiquer le film Wolf, film québécois de Francis Bordelot, qu'on a tous vu. Et donc, une critique commune sur ce film-là en deuxième demi-heure d'émission. Je sens qu'il va y avoir pas mal de choses à dire et qu'on sera peut-être pas tous d'accord sur les mêmes points, mais en tout cas, tout ça, restez là en deuxième demi-heure de Cinébrunch. Sinon, on va critiquer pour vous les films Maria par Callas, Les Frères Sisters et Johnny English frappe à nouveau. Mais avant d'arriver à toutes ces belles choses, je vais vous passer la parole un peu parce que, bon, la mâchoire m'arrête pas. Mélina.
Oui. En fait, on parle souvent des avantages de voir les films au cinéma, mais il y a vraiment un gros désavantage, c'est qu'on peut pas faire pause dans un film au cinéma pour aller aux toilettes, par exemple.
Ben oui, toi.
Ben oui. Fait qu'on m'a appris récemment qu'il existait une application qui s'appelle RunPee et qui vous indique les meilleurs moments pour s'absenter durant un film pour aller aux toilettes, pour s'assurer de ne rien manquer de trop important. Donc, pour l'instant, il semble que c'est disponible pour les gros films américains. Mais bon, je sais pas trop quoi penser de tout ça. C'est positif, puis en même temps, c'est négatif. Parce que si tout le monde se met à ouvrir son cellulaire pour regarder l'application durant le film pour voir c'est quand le meilleur moment pour sortir de la salle, ben ça va faire de la lumière.
C'est infernal.
C'est ça. En plus, il va y avoir plein de monde qui vont sortir de la salle pour aller aux toilettes. Puis je trouve ça assez insupportable parce que moi, ça nuit grandement à mon immersion de 1. Puis tant qu'à y être, en parlant d'immersion, hein, j'ai un message à tous ceux qui vont au cinéma et qui allument leur téléphone cellulaire durant un film. Oui, on vous voit. La salle est dans la noirceur.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que même si t'essaies de cacher la petite lumière bleue dans ton manteau ou je sais pas de quelle façon, on la voit, puis c'est fatigant. Fait que voilà.
Oui, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Bon, peut-être dans le dernier banc en arrière, on le voit pas si on est en avant, là, mais c'est assez désagréable.
Oui, oui. Ouais.
Ça se met même presque au deuxième rang derrière... manger dans la salle, de la nourriture qui n'est pas du popcorn.
Mais on s'entend, on est dans une époque quand même d'accessibilité de ces appareils-là. Oui. Avant, là, pendant les espèces de diffusion, ça vous fatigue pas tant que ça. Là. On s'entend, c'est pendant...
Non, pendant les previews, aucun problème. Vous pouvez voir ce que vous voulez avec votre téléphone, à part parler au téléphone, évidemment.
Oui.
Mais sinon, il n'y a aucun problème. Oui.
Mais durant le film,
ça se comprend parce que j'ai pêché.
Non, mais ça dépend. J'ai même vu des gens qui, pendant le film, ouvrent la flashlight de leur téléphone cellulaire.
Ouch.
Pour se trouver une belle place parce qu'ils arrivent en retard.
Exactement, pour sortir de la salle, pour aller aux toilettes.
Mais c'est sûr que c'est parce que nous autres, on n'a pas ce problème-là, comme on a déjà nos sièges réservés.
Ah oui,
désolé, mais c'est prestigieux d'être à Cinébrunch, je ne peux pas se le dire.
Ben oui, on n'est pas n'importe qui. André-Jean, de ton côté.
Oui, de mon côté, écoutez, 2018 est explosif au niveau de la cinématographie québécoise. J'ai appris récemment, en fait, là, je ne vous nommerai pas mes sources, hein, parce que quand même, on va se garder un petit peu de gêne. Le cinéma québécois pullule, en fait, depuis quelques mois. Il y a un paquet, je dirais, il y a une quinzaine de nouveaux films qui ont démarré leur production, en fait, durant les quatre ou cinq derniers mois, en fait.
Mm-hmm.
Ce qui nous promet, en fait, de quelques années de beaucoup de plaisir dans le futur, en fait. Beaucoup de premiers films, d'ailleurs, aussi.
De premiers films de réalisateurs?
Oui, en fait, ouais, exactement. Okay. L'apparition de nouveaux réalisateurs. Souvent, bon, on va faire des courts-métrages, mais on ne les connaît pas au niveau des longs-métrages. Donc, ça va devenir intéressant dans les années qui vont suivre, je vous le garantis. Entre autres, c'est le cas de M. Daniel Daigle, qui a débuté le tournage de son film intitulé Sim, qui est son premier long-métrage, lui aussi. Il a commencé ça à Montréal le 14 octobre dernier, finalement. Et bien sûr, là, il se promène comme certains autres, dont là, parce que je le dis, les noms m'échappent, mais il est allé dans plein de petites régions, dont Saint-Jean-de-Mata, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Saint-Léonard-d'Aston. On se promène beaucoup en région, finalement.
Ben oui.
Le fameux film Sim en question, finalement, qu'il décrit lui-même comme un drame psychologique aux accents comiques et qui offre différents revirements inattendus avec une fin qui touche les trailers, en fait. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Il dépeint dépeint, les acteurs qui, dont il s'est entouré dépeignent la relation entre deux frères, finalement, qui reprennent contact par surprise avec leur père, qu'ils croyaient les deux morts, finalement. Mais pour une fois, je dois avouer que est-ce que c'est la variété de nouveaux réalisateurs? J'ai hâte de voir comment ça se manifeste.
Mais moi aussi, alors évidemment, il va y avoir un délai entre le moment où on tourne ces films-là et le moment où on va les voir.
Oui,
donc, comme
sûr.
Tu dis,
ben,
plusieurs années de bonheur.
Année de début 2018, phénoménal pour un nombre de productions. Hein, on est dans la quinzaine dans les derniers mois. Et le film Silm en tant que tel est prévu pour une sortie en décembre 2019. Donc, tu sais, c'est pas des films avec budget comme Le Seigneur des Anneaux qui vont être tournés sur je sais pas combien d'années puis produits, là, des fois 2 ans, 3 ans après. Là, on est dans... la sortie devrait être en 2019 décembre.
Bon, à suivre.
C'est intéressant. C'est plus rapide que les avatars, en fait.
Mais coup de théâtre.
Effectivement, effectivement. Merci beaucoup. De mon côté, je vais vous parler rapidement, très rapidement, de Jean Dujardin. Vous vous souvenez de Monsieur Dujardin, qui notamment est connu pour OSS 117. Eh bien, justement, par rapport à OSS 117, vous vous souvenez, cette semaine, il y a eu l'élection présidentielle au Brésil et Monsieur Bolsonaro a été élu, faisant un certain nombre de... pas de scandale, mais ça crée une certaine polémique, dans le sens où on élit quelqu'un d'extrême droite. Par rapport à ça, Jean Dujardin a réagi sur les internets en mettant simplement une photo de lui tirée du deuxième film de 1617 qui s'appelait, rappelez-vous, Rio ne répond plus. Donc, petit peu d'humour de Jean Dujardin. Et en légende de la photo, le comédien Jean Dujardin a écrit une phrase qu'il dit dans le film « Savez-vous seulement ce qu'est une dictature, Dolores? » Donc, un petit peu d'humour, voilà, de Jean Dujardin. Toujours intéressant, on attend toujours le fameux au 617, le troisième, qui n'est pas prêt de sortir, d'après moi. Alors voilà, triste, ou plutôt comique façon de rire de l'actualité politique par Jean Dujardin. Voilà. Dans quelques minutes, Mélina nous parle du film Callas, Maria by Callas ou Maria par Callas. Restez avec nous. Voici Cinébrunch. Mélina, tu l'as vu, Maria ou Callas, ou Maria par Callas, ou un peu des deux.
Exactement, Maria par Callas. Donc, c'est un documentaire sur Maria Callas, une cantatrice grecque. C'est réalisé par Tom Wolfe. C'est très intéressant le contexte dans lequel il a décidé de faire ce film. En fait, M. Wolfe ne connaissait rien du tout à l'opéra. Et en 2013, il a décidé d'aller voir une représentation de Marie Stuart au Met, alors qu'il était étudiant en médecine à New York. Et aussitôt rentré chez lui, il se met à faire des recherches sur Internet et c'est comme ça qu'il découvre Maria Callas et qu'il est complètement bouleversé par elle. Il regarde tous les documentaires, il lit tous les livres, mais ne parvient toujours pas à la comprendre. Il passera donc les 4 années suivantes à chercher tout ce qu'il peut trouver sur elle. Il va voyager dans plusieurs pays, il va ramasser plusieurs images d'archives inédites, de films Super 8 et rencontrera plein de parents et d'amis de Maria Callas. Il ramassait tellement de stock que la première version du film durait 4 heures.
Oh boy!
Oui, donc il a réussi à couper ça de moitié. On a donc un film qui dure 2 heures, ce qui est quand même un peu long, mais ça risque que Maria Callas est une très grande artiste qui a une voix assez phénoménale. Donc, elle est née à New York en 1923 de parents grecs. C'est sa mère qui va énormément la pousser à développer sa voix et c'est ainsi qu'elle va devenir l'une des cantatrices les plus célèbres. Elle est décédée en 1977, âgée de seulement 53 ans. Donc, on va aller écouter la bande-annonce.
Puisque vous dites que vous avez besoin de travailler, pourquoi n'avez-vous pas chanté depuis 4 ans?
J'étais pas bien.
Who has to win, Maria or Callas?
I like to think that they both go together, because Callas has been Maria.
Écoutez, vous êtes une femme heureuse.
Ça, c'est vrai. Il faut que je le pense plus souvent.
Donc, c'était la bande-annonce du film Maria par Callas. Contrairement au documentaire sur Pauline Julien qu'on a vu récemment, on sent qu'il n'y a pas de manque d'images. C'est-à-dire qu'il a vraiment été chercher de nombreuses images d'archives. Et en fait, je pense que si ma mémoire est bonne, le film est entièrement composé d'images d'archives, ce qui est vraiment fort pour un documentaire biographique sur quelqu'un qui est déjà décédé. Un documentaire qui dure quand même 2 heures, donc ça donne quand même...
C'est quand même long.
C'est quand même long, mais le fait qu'on ait autant d'images d'archives pour remplir un 2 heures visuellement, ça donne une crédibilité assez importante au film, contrairement à... au documentaire sur Pauline Julien qu'on était allé chercher des images de plage ou d'arbres.
On trouvait qu'il y avait manqué de stock un peu. Mais là, c'est différent, l'inverse, en fait.
Effectivement, c'est complètement l'inverse. La seule chose qui est ajoutée au film, c'est une narration de Fanny Ardant que j'ai trouvée, pour ma part, très crédible. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'ai réussi à oublier que c'était pas Maria Callas qui faisait la narration de sa propre histoire. Il y a beaucoup de longs extraits de pièces qui nous permettent vraiment d'apprécier, de comprendre et de connaître Maria Callas. Mais le contre-coup de ça, c'est que j'ai trouvé ça un tout petit peu long par moment. Il y a aussi certaines thématiques que j'aurais aimé qu'on explore plus, notamment au niveau de sa vie familiale. Mais en même temps, je comprends qu'on reste limité parce qu'on n'utilise que du matériel d'archives. C'est sûr que si vous êtes déjà des fans de Maria Callas, que vous avez un intérêt pour l'opéra, je vous conseille fortement d'aller voir ce documentaire. Le travail de fond qui a été fait sur le film est assez impressionnant. Je donne donc au documentaire Maria par Callas la note de 7 sur 10.
7 sur 10, j'ai eu la chance aussi de voir le film. Je sais que c'est un film qui est très... Il y a beaucoup de gens qui veulent voir ce film-là. La salle était d'ailleurs...
Pratiquement pleine,
oui. Là, on va se le dire. Puis pourtant, on était en plein milieu de la journée. Oui. Là,
en semaine aussi.
En semaine. Donc, oui. Ça montre qu'il y a vraiment un intérêt pour cette cantatrice-là, pour cette comédienne, je ne sais pas comment on l'appelle ça.
Chanteuse
d'opéra, en tout cas. Oui. Évidemment, le public était assez âgé, moi, ce que j'ai remarqué. Mm-hmm. Contrairement au film de Pauline Julien, où le film était, disons, très politique, ou justement avec des messages plus historiques, des choses comme ça, dans celui-ci, je trouvais qu'il était... un peu moins accessible à n'importe qui.
Mm-hmm. Oui, c'est ça que j'étais pour demander. Moi, si je ne connais pas du tout la cantatrice en question, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir du plaisir, finalement?
Ben, tu vas trouver que c'est intense. Si tu n'aimes pas déjà l'opéra, si tu ne connais pas, je pense que tu vas moins trouver ton compte, peut-être que dans le film de Pauline Julien, où même si on ne la connaissait pas, l'histoire qui est avec accompagne suffisamment pour donner du contenu historique global qui intéresse n'importe qui.
En même temps, c'est comme de l'opéra. Je présume qu'à la base, je ne me retrouverais pas là par hasard totalement non plus. Mais si je ne la connais pas, non, mais dans le sens où j'aurais un intérêt pour l'opéra sans nécessairement l'avoir eu pour
déjà,
elle.
Je te dis que tu n'étais pas un fan de films biographiques à la base. Donc,
non, effectivement.
Moi, je ne te conseille pas d'y aller dans ce cas-ci. Mais,
bon, j'irai pas.
Mais il y a beaucoup de chansons. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce film-là, je pense que tu en as parlé, mais il y a peut-être 5 ou 6 fois où on a des pièces complètes.
Oui.
Donc, peut-être pas des pièces complètes d'opéra, mais des mouvements complets d'opéra ou des chansonnettes qui ne veulent pas durer 4-5 minutes à chaque fois.
OK, fait qu'on y va aussi pour apprécier.
On a des gros plans d'elle qui chante. Tu sais, il faut aimer ça, là, parce que sinon, franchement,
ça peut être
long.
En même temps,
ça nous
permet de la connaître en tant qu'artiste. Donc, moi, j'ai trouvé ça fort pertinent aussi.
C'est fort pertinent,
de mettre des pièces complètes. Puis, je pense que contrairement à Pauline Julien aussi, c'est que dans le documentaire de Pauline Julien, on se retrouve là-dedans parce que c'est notre histoire québécoise. On parle des référendums, des choses comme ça. Alors que là, c'est une époque, on fait moins effectivement de référence au contexte historique dans lequel ça se situe. On se penche vraiment beaucoup sur elle. Mais en même temps, je pense que c'est très intéressant comme ça parce que c'est une artiste qui a été adorée, mais aussi qui a
été critiquée aussi. Oh oui.
Énormément critiquée lorsque, notamment, une fois, elle annule une performance en raison d'une bronchite, je pense. Mm-hmm. Mais elle se fait descendre dans les journaux. Donc, on vient un peu rétablir la vérité sur tous ces faits-là. Et je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que c'est une artiste dont on avait besoin d'aller voir tout le potentiel, tout ce qui la touchait en tant qu'artiste. Mais effectivement, je trouvais que ça manquait aussi un peu plus de sa vie personnelle, de choses comme ça.
Oui, puis moi, je trouve que ça manquait un peu de dynamisme. On avait, j'ai oublié le nom de la dame qui faisait la voix en français. Là.
Fanny Ardant.
Fanny Ardant qui lisait les lettres qu'elle a écrites. Elle correspondait avec...
Notamment Grace Kelly.
C'est ça, des amis proches d'elle, du milieu. Au début, c'est un peu dérangeant. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant avec l'accent et tout ça. Je sais pas, ça m'a un peu troublé. À la fin, c'est mieux. Je dirais, on s'adapte à ça fonctionne. Le problème est là, c'est que moi, j'avais hâte d'avoir dans ce film-là les scènes où on allait nous expliquer les choses. J'avais hâte d'avoir des conversations. J'avais hâte d'avoir...
Ouais, le côté historique,
finalement. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y avait trop de chansons. Mais je, non, moi, personnellement, un peu trop long pour moi, mais je comprends ton 7 sur 10. C'est très, je donnerais la même note.
Écoute,
là,
on peut bon l'appeler film. Cette semaine pour lui demander.
Ben, parce je pense que oui. En fait, peux-tu t'en charger? Moi, je suis un peu occupé.
Ben oui, sans problème. Parfait. Regarde, je le contacte cette semaine pour avoir un petit peu la motivation derrière son... Ben, parce que s'il y avait 4 heures, puis il a fallu qu'il coupe ça en 2 heures, il a dû avoir une motivation. Mm-hmm. Il a fait des choix, finalement.
Ben oui, ben, il a dû se dire, je vais être en salle. Voilà, je vais
Mais c'est quelqu'un qui a fait ça vraiment par... Par, j'allais dire, obsession, c'est peut-être un peu fort, mais par grands intérêts sur l'artiste, parce que, comme je l'ai dit, il était étudiant en médecine au moment où il y a 4 ans, il était étudiant
quand
en
même,
médecine.
Hein, quand même.
Donc, c'est quelqu'un qui vient complètement d'un autre univers, qui a été comme appelé par cette madame-là et qui a dit non, il n'y a rien qui existe, je vais faire quelque chose parce que j'ai trop de questions et trop peu de réponses.
Mais elle est captivante, la dame.
Vraiment,
elle
très est captivante. Captivante.
Ouais. Donc, un film à voir quand même, surtout si vous aimez le genre. Donc, merci beaucoup, Mélina, pour ta critique. 7 sur 10.
Merci. Oui. Merci.
André-Jean, cette semaine, tu es allé te taper un western.
Eh oui, en fait, c'est un western franco-américain. Écoute, les Frères Sisters, ou Sisters Brothers, finalement.
Oui, qui est sorti... déjà c'est drôle en soi.
Oui, oui, ben voilà, il y a comme une espèce de petit jeu de mots. En fait, c'est basé sur un roman, ça, qui est... Oh là là, j'ai malheureusement mes sources sont douteuses, là, mais je pense que c'est un roman qui est sorti en 2005 ou en 95, donc j'ai une marge de 10 ans. Pardonnez-moi. Non, mais c'est ça, c'est un roman d'un autre auteur, finalement, qui a inspiré la chose. Donc, c'est strictement du fictif. Hein.
La fiction peut.
Sorti le 26 octobre, justement. Là, ils mettent ça dans la catégorie aventure, comédie, parce que c'est le cas un peu. Réalisé par Jacques Audiard. En fait, c'est le fameux réalisateur et scénariste français qui est dans ce film-là, en fait, qui a repris le roman, comme je disais, pour en faire un scénario. C'est un réalisateur que vous pouvez peut-être connaître pour « De battre mon cœur s'est arrêté » en 2005. Oui. Un prophète en 2009 ou encore de Rouille et d'os en 2012. Moi, ça, le dernier me dit absolument rien. Les acteurs quand même, John C. Reilly, pardon, les Américains d'abord, la fameuse Carol Kane, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, toujours américain bien sûr, et le fameux Riz Ahmed, l'acteur, rappeur et activiste de descendance pakistanaise. En fait, c'est un Britannique.
Ah bon, ok.
Riz Ahmed, ouais.
Ça manque à ma culture.
Et le Néerlandais Rutger Hauer. Et là, excusez-moi cette digestion.
Cette prononciation anglaise, voilà, particulièrement intéressante.
J'ai pas un Néerlandais très très fluide. Bon. Donc, écoutez, je vous invite tout de suite. On va écouter la bande annonce.
Ton avis, on en a tué combien? J'en sais rien. 6, 7. Quoi? Bah, on a bien merdé sur ce coup. Votre confort dans un moment d'incertitude. S.I.S. TVRS. Sisters. Comme des sœurs.
Nous deux, on est les Frères Sisters. Toi et moi.
Et ben voilà, un film qui nous dure à peu près 2 heures et des poussières, en fait, où on nous propulse en Oregon en 1851, pardon. donc, on va suivre les tueurs à gages, donc Ellie et Charlie Sisters, qui sont les héros du roman, bien sûr, qui vont prendre la route vers San Francisco à la demande de leur employeur, le commandant. Donc, une espèce de tortionnaire reclus dans une ville. Ouais, c'est un peu ça. pour les gens qui ne nous voient pas,
oui,
là, on avait...
des signes hitlériens.
Des signes qui sont proscrits de façon générale, même à la radio. Donc, c'est dans cette ville, en plein boom, que le détective John Morris doit leur livrer sa nouvelle prise, le chimiste, donc John Morris, qui est lui-même un détective engagé par le fameux commandant, qui va livrer aux frères Sisters le chimiste, sa dernière prise, en fait, Herman Kermit Worm, qui aurait découvert une formule lui permettant de trouver l'or facilement dans le lit des rivières.
Oui, parce qu'on se rappelle qu'on est à l'époque de la ruée vers l'or.
Oui, oui.
Ben, totalement. Là, c'est ça. Dans le contexte du western, je dirais western moderne, mais je vais y revenir, en fait, après le petit synopsis.
Bien sûr.
Pendant que les deux frères entament leur voyage, le chimiste, finalement, finit par comment je pourrais dire, se rallier le détective Morris à sa cause. Et donc, c'est une série de circonstances et de petites malchances de part et d'autre qui vont finalement mettre les quatre hommes en lien et qui vont les rapprocher au niveau de leur but, soit d'utiliser la formule, c'est-à-dire du chimiste, à leur profit individuel. Quand je dis western, d'accord, ben, western, où on dit franco-américain, c'est un western moderne, mais qui m'a pas déçu, mais pas du tout.
Merveilleux.
C'est quelque chose qui m'a... En fait, ça m'a surpris. Je vais vous avouer, j'ai pas... J'étais très mitigé au niveau de ma note. Vous allez voir pourquoi, en fait. Le jeu des acteurs est très, très crédible. Moi, il y a rien à remettre en question, okay. Même si on est dans un contexte western où, justement, il y a du multiculturalisme assez minimal. Hein? La majorité sont des Américains blancs classiques, mais Reed, le personnage du chimiste en tant que tel, le fameux chimiste Warm, il vient pas de là. En fait, je crois qu'il incarne, je sais pas la nationalité dans le film, mais s'il est pas indien ou quelque chose, grosso modo, il est pas américain et il est très, justement, il se fait très discret par rapport à ça. Tout est plausible, en fait, dans la trame sonore due au jeu d'acteur. Les plans, c'est digne d'un enchaînement de plans digne d'un western, je dirais pratiquement des classiques de western, en fait. On a beaucoup de très beaux panoramas qui nous remontent l'Amérique d'une façon... j'aurais aimé ça même savoir c'est où ce coin-là, parce qu'il y a vraiment des paysages à couper le souffle. C'est surprenant. Mais tout ça nous ramène beaucoup, en fait, il y a beaucoup aussi de plans qui nous ramènent dans l'intimité des personnages. Hein. On va suivre longtemps dans le film, on suit les fameux frères sisters et on se retrouve dans l'intimité familiale du duo. Western moderne, parce qu'effectivement, ça prend peut-être, j'étais mitigé là-dessus, mais ça prend clairement le background qu'on a aujourd'hui en 2018 pour avoir l'intérêt de les suivre comme ça. On n'est plus là à nos anciens héros de classique de western culte.
C'est moins flamboyant, là, on est dans quelque chose de plus
réaliste.
On rentre
dans le psychologique, c'est ça qui arrive. Ouais. Ça, donc, ça nous prend le background pour se dire, bon, parce qu'il y a des interactions entre eux autres qui les ramènent, en tout cas, je ne veux pas vous vendre de punch, comme on dit, mais c'est, en tout cas...
J'en prendrais bien un verre, en fait.
Un petit verre de punch, je te sors ça, effectivement, c'est caniculaire. Une trappe sonore qui est très épurée et qui n'alourdit pas du tout le film. Je dois avouer que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que j'avais des réticences, en fait, suite à la bande-annonce. Comme vous l'avez entendu, c'est de la musique moderne. Moi, ça me perturbait, ça. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Et finalement...
C'était que pour la bande-annonce.
Exactement.
C'est assez typique.
Ça laisse beaucoup de place à qu'est-ce qui se passe entre les personnages. Puis c'est pour ça, ça nous permet donc de rentrer encore beaucoup plus tantôt dans le côté, dans l'intimité familiale des personnages, et tantôt dans le personnel qui vont vivre entre eux autres, ces quatre hommes-là. Je dois vous avouer que j'ai été agréablement surpris et même j'ai été bouleversé à la toute fin. En tout cas, ou est-ce que c'est moi qui est particulièrement sensible à cette époque-ci de l'année? Je sais pas. Je vous laisse aller le voir. Personnellement, j'ai été agréablement surpris. Le western moderne, pour moi, c'est pas quelque chose qui... Je veux dire, je suis intéressé. Il y a d'autres séries qui... Westworld, etc., qu'on a entendu, que j'ai trouvé merveilleuse, mais c'est des contextes. Là, je dois vous avouer que j'ai pas le choix de donner un 9 sur 10.
Wow.
Ça me perturbe.
Mais je suis content parce que je voulais aller le voir, ce film-là, puis j'osais comme... J'étais pas sûr, parce que là, je savais que t'allais y aller le voir. Je voulais pas nécessairement qu'on allait le voir en double si c'était pas bon, mais là, tu me dis que c'est bon, on va y aller.
Ah oui, il y a pas d'hésitation, bon, je le conseille à tous mes amis. Excellent. Et même à tous mes ennemis.
Ah oui. Mais c'est bien, c'est empathique de ta pensée. Voilà. Merci beaucoup, André-Jean.
C'est un plaisir.
Cette semaine, j'ai vu pour vous un film un peu plus léger que vos deux films, chers compagnons. J'ai vu le film Johnny English, frappe encore, réalisé par David Kerr et scénarisé par le duo Neil Purvis et Robert Wade. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour vous parler de ces deux scénaristes, Neil Purvis et Robert Wade. Ces deux scénaristes-là travaillent ensemble sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Notamment, ils ont écrit le premier Johnny English ensemble, donc qui remonte à 2003, je crois bien. Mais surtout, et c'est assez impressionnant, surtout dans le genre, ils ont écrit les 6 derniers films de James Bond.
Wow!
Ooh.
Alors, c'est pas rien, là. Les 6 derniers films de James Bond ont été écrits par les deux mêmes scénaristes qui ont écrit Johnny English, frappe encore!
Excellent.
Donc, ça ajoute une petite crédibilité là, au niveau du milieu de l'espionnage. Hein? On va se le dire. Donc, Maintenant, les acteurs pour le film John English frappent encore. Évidemment, on a Rowan Atkinson, qui est connu notamment pour son personnage très similaire de Mr. Bean. Il joue évidemment ici le rôle de Johnny English. Et la très jolie Olga Kurylenko, qu'on a vue récemment dans le film français Dans la brume, mais aussi dans 007 Quantum, il y a quelques années. On doit aussi voir Emma Thompson, Jake Lacy et Ben Miller, qui jouait d'ailleurs le fidèle comparse de Johnny English dans le premier film et qui revient dans le même rôle de Buff. Donc, ce qui ressort déjà, avant même de commencer mes critiques, c'est que tout est là pour faire une grande comédie d'espionnage. Beaucoup de monde d'expérience dans le domaine. Voici la bande-annonce.
Nous avons un problème.
Tant mieux.
Les identités de nos agents en service ont été dévoilées.
Le pays est dans le chaos le plus total et la seule personne que la Providence m'envoie, c'est vous.
Monsieur!
Ça va, Buff? Nous partons en mission, pas en lune de miel.
Bien entendu.
C'est elle la clé de cette affaire.
Je crois que c'est la première fois que je rencontre un homme comme vous.
Réalité virtuelle?
C'est d'un tel réalisme que certains n'ont plus conscience du monde qui les entoure.
Oh, ça, je peux vous assurer que ça ne m'arrivera pas.
Dites-moi que l'enquête de votre agent sur le terrain progresse.
Cible verrouillée, c'est le moment de sortir le radeau gonflable.
Non, pas dans la voiture!
Alors, vous avez reconnu la particularité des films de Johnny English.
Oui, bien
c'est
sûr.
Très visuel, hein, donc oui. On ne vous comprend pas tout ce qu'on vient d'entendre. dans tous les cas, évidemment, Mr. Bean, il dit presque rien.
Exactement.
Son personnage, hein, voilà. Tout est dans la gestuelle, ouais. Dans tout ça. Il parle un peu plus quand même dans Johnny English. Alors, l'histoire. Le célèbre, malgré lui, agent secret du MI7, Johnny English, désormais retraité de sa profession, s'est recyclé comme enseignant de sciences dans une école pour enfants. Un jour, le gouvernement britannique est victime d'un piratage monstre qui compromet l'intégralité des agences et des services secrets. Pour régler la crise et comprendre ce qui se passe, on rappelle Johnny English pour gérer la situation, alors que la première ministre tente de convaincre le Steve Jobs ou Zuckerberg de leur venir en aide. Voilà. Johnny et son comparse Buff vont vite réaliser que quelque chose de louche se trame dans tout ça. Donc ça, c'est l'histoire de ce Johnny English frappe encore. Évidemment, le film en entier est une suite d'erreurs et de maladresses de la part de Johnny, mais aussi, dans ce cas-ci, une sorte de clash générationnel au niveau des technologies. Les méthodes de Johnny peuvent paraître désuètes, mais parfois utiles, puisque la technologie a ses faiblesses. On voit Johnny choisir une vieille Aston Martin à gaz plutôt qu'une voiture hybride, refuser l'utilisation d'un téléphone intelligent, etc., etc. Donc on est dans l'espèce de clash de génération. Si on enlevait l'absurdité et la comédie, le film passerait quand même le test pour un bon film d'espionnage. Donc ça, c'est quand même bien. On n'est pas dans le calibre des derniers James Bond quand même. On voit le travail de Purvis et Wade. Maintenant, évidemment, c'est une parodie de James Bond au même titre que SS 117 et on va voir ce film-là pour rire et pour se divertir et rien d'autre. Et c'est là, peut-être, que malheureusement, j'ai moins ri que dans les films précédents. Donc, même si l'intrigue est mieux ficelée, les gags sont très prévisibles, très répétitifs. Les derniers films, évidemment, on fait des liens avec les derniers films. Ce qui parfois est une bonne chose, mais parfois pas. Pourtant, les gens dans la salle riaient beaucoup plus que moi à ces blagues-là. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'est moi qui est un moins bon public? Ou en tout cas, si vous avez le rire facile, juste le fait de voir les yeux de Rowan Atkinson est hilarant pour vous, je pense que vous ne serez pas déçus. Pour ma part, ça m'en prend un petit peu plus. Si je compare ce film-là avec les deux précédents, en ordre de drôlerie, je dirais que le premier était plus drôle. Dans le deuxième, bon, la scène de la chaise, là, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, la scène de la chaise de bureau est complètement hilarante. J'en ris encore juste en y pensant. Ensuite, sans dévoiler des détails, dans ce film-ci, donc le tout dernier qui vient de sortir et qui est toujours à l'affiche, alors, la scène de la réalité virtuelle, sans dévoiler les détails, là, pour moi, c'est l'apogée de la comédie dans ce film-là. C'est extrêmement drôle et hilarant. Si vous avez jamais vu les autres, je vous recommande de les voir, mais ça ne vous empêche pas de comprendre ou de vous amuser. On est dans le divertissement tout public. Vous pouvez aller voir ça directement, je vous donne. Donc, ma note 8 sur 10 pour ce film, c'est quand même très bon.
Mm-hmm. Oui, effectivement.
C'est quand même très bon. Mm-hmm. Mais voilà, un petit film familial, le fun. Mm-hmm. Pas trop de violence, relativement accessible. Donc, Johnny English frappe encore. C'est toi ça en ce moment.
Merci, Jim.
Merci.
De retour à Cinébrunch, je vous l'ai dit, l'Halloween est fini, on parle plus des films d'horreur et ces choses-là. Par contre, on va parler d'un film qui est quand même assez rough. On va parler du film Wolf, film québécois de Francis Bordelot. et on va faire une critique commune de ce film-là. Donc, je vais peut-être faire un petit résumé de l'histoire.
Je pense que ça serait intéressant.
Ça va donner un petit peu de... Hein, voilà. Donc, Wolf, un film écrit et réalisé par Francis Bordelot, qui met en vedette Catherine Brunet, Ludivine Redding, Antoine Pilon, Léa Roy et quelques autres, dont accessoirement Marie-Lou Wolf. Donc, le synopsis. Lors du party de son 21e anniversaire, Andy s'enlève la vie devant ses amis après un discours très intense sur sa vie, les gens et ses actions. Par la suite, ses proches, témoins de la scène, sombrent dans une crise existentielle et se questionnent sur leur propre vie et leur mort. Donc, on se cachera pas que c'est pas une comédie et que c'est assez rough comme film. Écoutons d'abord la bande-annonce.
Andy, ce soir c'est ta fête. Je pourrais pas être là. Je peux pas aller nulle part. Ce que je vais tout vouloir savoir. Tout savoir de toi, Beaufeu. Tout savoir sur toi, puis la petite Viviane. J'aimerais tellement ça. Pouvoir te voir heureuse avec elle de mes propres yeux.
Ouais. Finalement, je devrais venir à ta fête ce soir, Andy.
À qui tu parles, hein?
À Andy.
Bonne fête, Christophe.
Je devrais venir pour te souhaiter bonne fête. En fait, une dernière fois.
C'était la bande-annonce du film Wolf. Maintenant, on va faire une critique commune de ce film-là. Et d'abord, j'ai envie de commencer par André-Jean. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film Wolf, André-Jean?
Écoute, j'ai été... c'est sûr que là, les gens vont trouver que j'utilise à outrance le terme « perturbé », mais j'ai... sérieusement, j'ai...
Tu dis juste une fois pour l'instant.
Que... Ah, OK. Oui, je... ben, pour le moment. Mais oui. Non, c'est... j'ai trouvé le film difficile à comprendre. Sur le coup, ça m'a pris même un peu de détachement, c'est-à-dire je l'ai écouté. J'aurais aimé ça, je le répétais, j'en parlais aussi, je suis allé le voir avec ma copine et on en parlait après et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentielles réflexions là-dessus. Je suis assez... mais disons, ma première impression, c'était... on essaie de toucher les réalités actuelles d'une génération. Hein, une génération qui est assez large et assez dissipée, ou en tout cas...
une génération qui est plus jeune que nous, là.
Oui, oui, les clairement. Millénaux, ben, les millénaux, on pourrait dire, mais un peu... Tu sais, ça vise un peu plus large aussi, je trouve, parce que c'est facile de s'identifier, mais même dans tout ça, c'est ce que... Parce que j'étais pas capable de... C'est-à-dire, moi, on a vu, moi et ma copine, une sous-potentielle explication à ce montage-là. Parce qu'en réalité, j'étais curieux de savoir quel était, à la sortie du film, on se disait c'était quoi le thème? Quel était? Est-ce que c'est suicide? Non. Le suicide est un moyen d'aller là. Est-ce que c'était la santé mentale? Moi, c'est ce qui m'est devenu, c'est ce que j'avais choisi comme hypothèse, en fait. Puis en parlant, ben, on est allé voir les critiques, qu'est-ce que le réalisateur lui-même en disait, etc. Je vais pas aller là-dedans tout de suite, mais en ce qui me concerne, vu la multitude de personnages qui sont tous, hein, qu'on peut tous identifier à différentes valeurs, hein, tantôt le rejet ou le manque de confiance, tantôt l'amour ou du moins la bienveillance, tout à l'heure le déni complet, tout à l'heure l'extrême force ou la violence, en fait, ou à la fin, puis même ce découpage-là, parce que bon, c'était qui l'actrice donc, qui paraît pas tant que ça, Juliane Côté, qu'on voit au tout début. Et qu'on voit pendant le film, et qu'on voit à la toute fin encore comme dernière scène. Donc, la première et la dernière scène m'ont amené à penser que le thème, en réalité, était peut-être les troubles de identitaires, là, ou les troubles de personnalité multiple, en fait. Où là, je me suis dit, est-ce que tout ça s'est pas passé dans sa tête à elle? Et moi, je trouve que ça l'a rajouté, ne serait-ce qu'on soit en train d'en parler, moi et ma copine, après, longuement, parce que ça se débattait. Hein? Moi, je passais de, ben non, c'est une gang, chacun... vit ses problèmes à travers tout ça et à travers, bon, donc le drame, hein, de la fameuse anniversaire d'Andy.
Oui.
Tout le monde vit sa propre vision de la chose en se foutant un peu de tout le monde, ce qui représente effectivement un peu la génération, donc tu vas rejoindre tout le monde, mais même le personnage de Juliane Côté, justement, qui est pas nommé, si je me rappelle bien, dans le film, ou du moins je me rappelle pas. Mais donc, il y a les cheveux un petit peu androgynes, un petit peu masculines. C'est pas clair, en fait, comme identité. Et elle-même se dissocie de tout le groupe à tout bout de champ. Donc, même ceux qui ne s'identifient à rien dans la génération des millénaux, finalement, peuvent s'identifier dans un des personnages du film, tu sais. Mais si on pense à la première et à la dernière scène, tout ça aurait pu se passer dans sa propre tête à elle, en fait. Elle se fait l'amour elle-même à travers ses multiples identités, elle se fait mal à elle-même, etc., en fait.
C'est très intéressant.
Ben moi, je suis parti là-dessus, je trouvais ça super.
J'avais jamais entendu, c'est la première fois que l'idée même me passe par l'esprit, mais ce que tu amènes est très intéressant, très valide. Et c'est effectivement, ça expliquerait la scène du début, parce que, pour essayer d'expliquer un petit peu pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas vu le film, donc le film ouvre avec une scène où on a une espèce de monologue devant un miroir de, justement, la comédienne...
Julianne Côté.
Et le film termine aussi avec ça, et le reste, le film est enveloppé entre ça et ça, qu'on la voit aussi accessoirement jouer un rôle dans le film, qui, comme tu dis, est assez détaché. Il y a des miroirs dans ces scènes-là de monologue. C'est particulier, c'est tout en blanc.
D'où la multiple personnalité. Mais... Est-ce que, tu sais, moi, à un moment donné, on regarde puis on se dit, c'est quoi le but de cette scène-là? Puis tu vois les reflets de son bras. Fait que tous les murs qui pointent vers elle sont des miroirs. Mais sinon, c'est d'un fond blanc. Donc, on est dans un hôpital, on est dans... Tu sais, vois-tu? Moi, c'est pour ça que je suis parti là-dedans, parce que je me suis dit, bon, à la base, si je regardais le film, c'est effectivement assez perturbant de la manière que c'est monté, de la manière que l'intrigue s'installe, le lien, comment on finit par connaître les personnages. Mais cette scène-là, pour moi, est une scène qui unifie tout et qui même transgresse complètement là, ce que le réalisateur en disait, en fait.
Oui, mais ça, de toute façon, chacun voit la chose comme il veut voir.
Appropriation intellectuelle, c'est ce que je fais.
Certains pourraient aussi penser que cette scène-là est là strictement pour faire accepter le film, prendre un film qui est très expérimental dans un sens et donner l'illusion que c'est voulu, autrement dit. Une espèce d'excuse pour le film. Donc, il y a plusieurs versions de ça. Avant de donner ta note ou tes appréciations réelles, on va passer à Mélina. Mélina, de ton côté, tes premières impressions du film Wolf?
Mes premières impressions, je ne savais pas du tout quoi penser de ce film-là. Je suis encore un peu dans la brume parce que je l'ai vu quand même assez récemment. Il n'y a pas eu le temps nécessairement de décanter parce que je l'ai vu dans les 12 dernières heures, donc c'est assez frais. Cela étant dit, j'aime beaucoup, André-Jean, ce que tu as amené comme point. Je pense que perturbant, c'est le bon mot. Il y a une genre de phrase que j'aimerais vraiment beaucoup qui dit, par rapport à n'importe quel art, pour briser les règles de cet art-là, il faut connaître les règles.
Exact.
Et j'ai l'impression que c'est ce qui a été fait. Je pense que tous les gens qui étaient dans ce film-là, de proche ou de loin, dans la réalisation, dans le scénario, au niveau des acteurs aussi, c'est du monde qui ont une connaissance très profonde, très poussée du cinéma et qui se sont amusés à tout déconstruire pour faire passer un message. Maintenant, au niveau du message en tant que tel, je pense que c'est sujet à de multiples interprétations. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée dans le monologue de fin dont tu parles, de Julianne Côté, quand elle dit « Vous dites qu'on fait des films, mais en fait, on fait juste crier tout ce qu'on a à dire, les éclats de verre dans notre cerveau, quelque chose comme ça. » Puis j'ai dit, je me suis dit « Ah, ben c'est ça. C'est une gang de jeunes acteurs, quand même très en vue au Québec, dans plusieurs émissions à succès, qui peut-être vivent dans la vraie vie, des situations qui ont peut-être aucun sens. Moi, ça m'a beaucoup fait rappeler les enfants vedettes, les enfants acteurs, tout ça. Il y en a une couple qui ont commencé très jeune dans Ramdam ou dans d'autres émissions comme ça. Et cette espèce de déconnexion-là avec la réalité, c'est ça que j'ai eu l'impression de voir, à quel point pour eux, tout n'a aucun sens. Donc, on va pousser à l'extrême pour voir jusqu'où on peut se rendre. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui a été fait dans le film et c'est ça que le film a été pour eux aussi, de pouvoir se dire jusqu'à quel point on peut déconstruire tout parce qu'on sait que tout le monde nous aime en ce moment au Québec.
C'est fort intéressant aussi comme analyse. Fort intéressant parce qu'effectivement, on n'aime pas quand des gens font des choses ambitieuses au Québec. On n'aime pas ça s'ils n'ont pas déjà le background pour le faire, s'ils n'ont pas déjà la réputation pour le faire. Je ne sais pas pourquoi, vraiment typique de notre société. Et c'est un peu le genre de critique qu'on a souvent. Dans ce cas-ci, cette critique-là ne pourrait pas exister à cause de ça. Cela dit, si je peux me permettre, moi j'ai une interprétation complètement différente de vous de ce film-là. C'est ça qui est intéressant des critiques communes. C'est que moi, j'ai vu que tout ce film-là est un... Je pense que c'est ce qu'on appelle en anglais un sandbox, un carré de sable, est une tentative d'expérimenter des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Notamment la réaction à la mort, mais la réaction au suicide surtout. Et je pense que ce film-là, dans le fond, ça c'est mon hypothèse, j'ai rien lu, là. Je ne suis pas au courant de ce que le réalisateur a dit, de tout ça. Et je me méfie tout le temps un peu de ce que le réalisateur dit sur leur propre film, parce que j'ai l'impression que des fois, ils décident après le film ce qu'ils veulent dire avec le film, en tout cas. Mais bon, j'ai rien vu, j'ai rien lu. mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a été caché dans ce film-là et qu'on a passé très peu de temps dessus, mais que selon comment on le comprend, cet élément-là, ça change complètement la signification au grand complet du film. Et je vais devoir en parler, parce que si j'en parle pas, je vais rester avec ça tout seul pour le reste de mes jours. Je vais en parler, je vais quand même proposer aux gens qui veulent aller voir le film sans avoir aucun divulgateur de se boucher les oreilles pendant quelques minutes. Mais je pense pas à la limite que ça va nuire au film. S'il y a de quoi, mais ça va peut-être permettre aux gens d'être un petit peu plus attentifs à ce qui va se passer à ce moment-là. Je regrette tellement de ne pas avoir eu un bouton pause et rewind au moment du film pour vérifier certaines informations. Je regrette énormément parce qu'il y a des choses que j'aimerais vérifier. Que si je pouvais revérifier là, ça changerait ce que je pense. Mais dans tous les cas, je vais en parler. Je vais parler du gun. C'est quelque chose qui est abordé à peine parce que la jeune femme va se suicider avec un fusil. Le fusil, on apprend rapidement dans le film que ça appartient à un monsieur qui, disons, est stimulé par l'idée d'être un criminel particulier. Bon, le dit fusil, il y a toute la question des balles du fusil. Alors, j'ai trois hypothèses pour vous qui vont métamorphoser votre perception du film. Je sais que c'est weird, je m'attarde un tout petit bout du film, mais je vous jure, ça change tout le film au complet. On essaie vraiment de nous amener à la crise identitaire, l'existentialisme, D'après moi, tout ça, c'est du flan. Tout ça, c'est juste un leurre pour nous tasser du vraiment point central du film. Et le point central, c'est les balles dans le fusil. Je sais que c'est super pragmatique, mon affaire, là, mais je vous dis, comme je pense qu'il se passe de quoi avec ça. Donc, il y a trois possibilités de pourquoi la fille est morte. La première possibilité, la version, disons, plus officielle, celle qu'on apprend durant le film. Alors, c'est maintenant que vous devez vous boucher les oreilles si vous ne voulez pas entendre. On la voit enlever les balles de fusil devant le propriétaire de l'arme. Et peut-être fait-elle exprès d'en laisser une dans le fusil. Parce que c'est un 6 coups. On enlève 5 balles, potentiellement. Il en restait une dedans. Le gars s'en rend pas compte parce qu'il est occupé à être... je dirais pas les détails non plus de ça. Dans ce cas-ci, elle voulait vraiment se suicider. Et donc, le film respecte ce qu'on voit du film. Maintenant, vous vous souvenez qu'il y a un gros plan tout de suite après cette scène-là. Il y a un gros plan sur la table où on voit les balles à côté du fusil pendant que, je ne sais plus qui est assis, mais en tout cas, bref, il y a une scène un peu érotique à ce moment-là. Et il y a un gros plan sur les balles et on voit 3 balles d'un côté et 2 balles de l'autre. Mais vraiment, vraiment, limite hors champ. Après, il y en a-tu une qui est juste hors champ? On fait exprès de les mettre hors champ, les deux. Là. Ça veut-tu dire qu'il y en a une troisième de ce côté-là? On ne sait pas, mais on sait que c'est un 6 coups. Je me suis vraiment questionné longuement de pourquoi ce plan-là. Même durant le film, on a vu ensemble, Mina m'a regardé. Elle m'a dit « Pourquoi ce plan-là? »
Oui, il n'y avait aucun... Oui.
Elle m'a vraiment dit ça pendant le film. On était tout seul dans la salle, il faut dire. Mais sans blague, moi, la seule explication de pourquoi il y a ce plan-là, c'est pour ce que je vais vous dire là. Deuxième possibilité. Elle ne savait pas qu'il y avait 6 balles là-dedans, qu'elle en a enlevé 5. Ça me semble bizarre, mais possible qu'elle ne le savait pas et donc, elle ne voulait pas vraiment suicider. Tout ça est un gros jeu de théâtre, donc durant la soirée. Elle voulait faire peur aux gens. Et c'était vraiment un jeu, comme elle avait dit, qu'elle voulait jouer un tour aux gens, la raison pourquoi elle a pris le fusil. Donc ça, c'est une autre possibilité qui, on va se le dire, change complètement le film, si c'est le cas.
Définitivement, parce qu'elle n'aurait pas voulu mourir.
Ben non, elle ne voudrait pas vraiment mourir, donc c'est pas vraiment un suicide rendu là. Vous rendez-vous compte à quel point ça change toute l'histoire.
Oui, mais là, il y a une autre scène après, plus tard, en fait, après tout ça. Vas-y, continue avec ta troisième possibilité.
Ben, c'est là, en fait, la troisième possibilité, je vais être honnête avec vous, je me suis réveillé en sursaut cette nuit. Avec cette idée-là, littéralement. Je me suis réveillé cette nuit, puis j'ai fait « Oh! » Parce que c'est vraiment un film qui continue de travailler après le film. Comme le film Origami que j'avais vu, que j'ai détesté pendant le film, puis qu'après. Ce film-là a continué de travailler, celui-ci aussi. Et je me suis réveillé cette nuit avec « Oh non! » Je me suis souvenu qu'il y a eu une autre scène, justement, après la fameuse scène du fusil. Voulez-vous que je vous le dise?
Ben, c'est les deux personnages qu'on ne nommera pas. Parce que là, on est en train de...
Non, il y a une troisième personne qui arrive dans la pièce après.
Oui.
Il y a le petit garçon.
Oui.
Il y a le petit garçon qui arrive et qui joue avec le diffusé.
Oui.
Est-ce qu'il a remis une balle dans le chargeur?
Oui, OK, OK.
On se souvient qu'il a été menacé par la fille. Si le garçon a remis une balle dans le chargeur, ça change complètement la dynamique. Tu te souviens, il a dit, à un moment donné, à la fille qui se suicide, il lui a dit, je peux avoir n'importe qui.
Oui.
Après ça, elle le menace avec une arme. Après
ah,
ça.
Ah oui, OK, je comprends où.
Il y a toute une logique. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il finit
Avec les... Oui, mais en même
avec
temps, c'est une...
Avec sa soeur et l'autre fille. C'est... Ouais. En tout cas, c'est tordu.
Il y a plusieurs façons de voir chaque scène. C'est ça que je comprends avec vous deux. Là. C'est intéressant parce que même dans ce que tu apportes, moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Puis j'ai toutes les scènes pour backer ce que je dis. Mais ce que tu... Excusez-moi là, pour appuyer mes dires ou ma façon de comprendre le film. Mais je trouve ça le fun parce qu'effectivement, j'ai la même sensation que vous autres. C'est-à-dire qu'en sortant de là, tu ne peux pas juste prendre ça à la légère.
Mm-hmm. Non.
Là, on est trois personnes, puis on a compris trois histoires.
Mais mm-hmm. ben, c'est ça qui est merveilleux.
C'est ça qui est merveilleux.
C'est vraiment capoté, en fait, parce que c'est pas le film qu'on peut dire léger. Tu repars, on s'entend tout avec ça, là, on est reparti avec un baluchon. Je vous dirais...
Oui. Ça continue là, de travailler.
Ben, notre auditoire ne pourra pas nous accuser de laxisme quand on se réveille en pleine nuit, en sursaut, je sais. Non, mais c'est très intéressant ce que tu apportes parce que, Jim, c'est ça. Mais c'est je suis sûr qu'on pourrait en parler pendant 4 heures parce que moi, je te dirais non, mais telle autre scène.
C'est ça, mais c'est pour ça que je dis, on veut brouiller les cartes là-dedans. Je pense qu'on veut laisser plusieurs possibilités aussi.
Mais on veut brouiller
les cartes et tu l'as dit très bien, ils connaissent bien les règles du cinéma.
Ils
jouent avec ça énormément et ça, c'est une façon de jouer. Pourquoi avoir mis le plan sur les balles sur la table? Pourquoi avoir mis le petit gars qui... Ça sert à rien, cette scène-là. Ben, à part d'affirmer la supériorité, encore une fois, du monsieur vis-à-vis du gars, vis-à-vis le jeune.
Oui.
Ça sert à rien, sauf si il s'est passé quelque chose.
Ben, techniquement, lui, il touche pas aux balles. Techniquement, il touche à l'arme, puis le chargeur est toujours sur
le
comptoir. Mais ouais, c'est vrai
parce
que c'est en arrière-scène.
Ça se passe. Il est en train de jouer avec.
Ouais.
Il a eu le temps de remettre une balle dedans.
Tout est possible
dans cette histoire-là. Ça fait peur.
Oui.
Ça fait peur.
Puis, je veux juste attirer votre attention sur un autre détail qui m'a quand même frappé, mais que vous avez pas mentionné. Son frère et sœur, le petit gars puis la fille.
Oui.
Le petit gars parle avec un accent complètement français.
Puis on sait jamais pourquoi.
Puis elle parle super québécois. Puis ils sont frères et sœurs dans la vraie vie.
Oui, mais
aussi.
Plus vieille que lui.
On met des pistes, on met des choses. Mais c'est jamais résolu.
C'est jamais résolu. Et pourquoi la fille est convaincue que ses parents sont vivants alors qu'ils sont décédés? Encore là, ça ramène la thèse d'André Jean qu'il y a une certaine folie là-dedans. Qu'il y a une certaine,
c'est un personnage qui était clairement associé au déni. Parce que même son frère, qui est son frère, en fait, lui est plus associé à la bienveillance. Donc, tu sais, moi, c'est pour ça que j'essayais de morceler chacune. En fait, pour moi, c'est une entité, c'est une personne, puis c'est toutes ces multiples personnalités qui sont manifestées, tu comprends? C'est pas du léger. On est dans le... Après ça, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, au niveau technique, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu, là, c'est chiant, puis probablement que c'est teinté justement parce que je suis québécois, je comprends leur accent, etc. Il y a des subtilités de jeu qui me...
Oui.
C'est-à-dire que je trouve que c'était pas tout à fait uniforme au niveau du jeu des acteurs.
Ben, c'est vrai.
Entièrement d'accord.
Je bâcherais pas sur personne.
Moi, j'ai trouvé que le fait de faire comme des entrevues, c'était comme sous forme d'entrevue entrecoupée de flashbacks, ça faisait un petit peu love story, rencontre les gangs de rue. Là,
mais en même temps, ça, c'est-tu un choix aussi? Parce que, tu sais, les scènes pendant le party, il y a des scènes qui sont
phénoménal. Merveilleux. La scène du party au complet, c'est un chef-d'œuvre.
Mais c'est ça,
mais
c'est
la première demi-heure ou trois quarts d'heure du film, je l'ai trouvé un peu pénible. Honnêtement, on a abandonné le personnage un peu comme dans un dialogue, un peu comme justement à Love Story ou les
réalités. Tu es un psychologue, tu es un enquêteur. T'sais,
on a quelqu'un qui parle en même temps. On sait pas c'est qui le gars. On pense à la fin, il y a une espèce de cercle de rencontre. On se dit c'est peut-être lui, mais c'est pas la même voix.
C'est pas la même voix.
On comprend jamais pourquoi ces choses-là arrivent. Et encore là, je trouve que on aurait pu nous en donner un petit peu plus. Tu sais, je comprends de laisser la floue et tout ça, mais là. OK, le scénario a été écrit en quoi? 4 jours,
ça
me
dit?
Ça a été rushé.
C'est une blague, là, mais...
Non, ça a été rushé, effectivement, sauf que moi, il reste que c'est toutes des affaires qui vont dans ma thèse de multiples personnalités, parce que, dans le fond, après ça, les scènes, quand j'y repensais, les scènes du début, la fameuse demi-heure, pour moi, c'était le psychologue du personnage central qu'on voit simplement comme une fille qui se défonce la gueule, une androgyne un peu qui se défonce la gueule pendant le party, mais... Tu sais, techniquement, pourquoi il y a tant d'emphase sur chacun de ces moments-là? Tout ça prenait un sens, avec la scène du début, la scène
raison.
De la fin.
Parce que maintenant, quand tu dis ça, que ce soit le psychologue ou travailleur social ou peu importe, la personne qui suit la personne dans l'environnement immédiat, les personnalités multiples, tout est là. C'est je suis content que tu dises ça, j'aurais jamais pensé à ça, mais c'est vraiment vraiment plausible comme idée. En tout cas, c'est fort intéressant. C'est déjà presque la fin de ce bloc, le temps passe à une vitesse considérable. Est-ce que vous voudriez donner vos notes pour ce film là?
Verdict
final, André Jean.
Mélina d'abord.
C'est très difficile, je sais même pas quoi donner comme note. Parce qu'effectivement, au niveau technique, au niveau des plans, on avait des super belles images.
La photographie était magnifique.
Effectivement, certains acteurs de soutien, le
moins
dialogue
bon,
semblait moins crédible.
La mère, là, notamment. Là.
Notamment, oui, c'est elle que je pensais, effectivement. Mais je pense que je vais donner un 9.
D'accord.
Parce que pour moi, c'est une déconstruction des règles basée sur la connaissance des règles. C'est pas une déconstruction des règles du cinéma basée sur quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait puis qui fait n'importe quoi. Je pense que c'est un film qui est méta à plusieurs niveaux. C'est un film qui peut avoir de multiples significations. Il y a plein de trucs cachés dedans. Donc, c'est un peu comme...
Mm-hmm.
C'est un film qui va continuer à grandir, puis c'est un film que je reverrai. Mm-hmm.
C'est un film qui va définitivement continuer à grandir.
Ouais.
Oui.
Donc, n'allez pas voir ce film-là sous prétexte que ça parle de suicide ou tout ça. C'est amené d'une façon qui rend ça plus accessible qu'on pourrait le penser.
Ouais.
L'accent n'est pas mis sur le geste autant que tout ce qui va autour.
Non, non, on est rendu dans une autre époque.
Une autre zone, complètement.
Ben, le film québécois n'est plus ce qu'il était. On ne peut pas résumer ça. Moi, c'est pour ça que je vais y donner une super note, moi aussi. Je peux pas descendre en bas que 9, et même je me sens obligé maintenant de dire 9.75.
Tu veux battre Mélina?
Ah, j'ai pas le choix. Non, mais
quand même.
La lourdeur, c'est-à-dire que au-delà du geste technique, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Les films québécois, j'avais des préjugés négatifs avant.
Oui.
Puis là, ce que je vois, c'est que ça fait déjà quelques années, on est passé ailleurs complètement. Des gens, les réalisateurs se donnent sans nous donner la réponse. Moi, c'est ça qui c'est ce qui m'amenait, tu sais, le plaisir, en fait, c'est aller voir un film que j'ai besoin de partir avec. J'ai quelque chose en tête, puis il faut que j'y pense. Parce que souvent, on ne peut pas se le retaper tout de suite, instantanément.
Non.
Fait que moi, c'est 9.75 sans hésitation, un aller-voir incontournable, ne serait-ce que par les thèmes qui sont très, très actuels. La génération, on n'arrête pas d'en parler, là, etc. Et pour le plaisir de sortir avec une expérience cinématographique que vous aurez besoin de redigérer.
Alors, moi, de mon côté, vraiment, j'appuie ce que vous venez de dire. Moi, j'ai trouvé le film dérangeant au moment de le voir au niveau... contrairement à Mina, il y a des éléments techniques qui m'ont dérangé, des éléments au niveau du rythme, beaucoup, qui m'ont achalé. J'ai pas aimé du tout le concept d'entrevue. J'ai trouvé que tout ça, on perdait du temps incroyable pour rien. Et j'ai trouvé que la fin était presque inutile. Pas la fin, là, mais toute la partie qui suit le suicide est vraiment moins important que le reste. Et pourtant, il y a beaucoup plus d'importance mis à ça. C'était long. À cause de ça, ma note de film au moment de sortir de la salle était 7 sur 10. Donc, c'était pas si bon. Maintenant, je donnerais un 8 parce que tout le travail qui s'est fait par la suite mérite au moins un point de plus. Je pourrais donner 8.5 là, sans problème. C'est un film qui, comme on l'a dit, tout le monde continue de travailler. Il va encore continuer. Je ne serais pas surpris que ce soir ou demain, on ait des nouvelles affaires qui nous viennent par rapport à ça. C'est un film qui mérite d'être vu. C'est un film, malgré les éléments qui m'ont dérangé, je considère que ce film-là est encore une fois un film qui nous donne du contenu à travailler, qui nous remet en question sur des choses. Puis c'est pas les mêmes choses pour tout le monde.
Non,
et ça, c'est vraiment bien. C'est un film qui a réussi à ce niveau-là.
Ouais.
Donc, félicitations, Monsieur Bordelot et toute la gang qui ont travaillé dans ce film-là. Donc, un film troublant. Non, pas troublant. Comment tu disais
perturbant.
Ça?
Perturbant. C'est clairement perturbant. Ouais,
perturbant.
Puis moi, je rajouterais en fait un petit truc. Si vous êtes pour aller voir ce film-là, moi, je vous conseille d'aller le voir avec des gens que vous connaissez. Parce qu'on
pour
peut
pouvoir en parler.
Exactement. Ouais. Parce que de voir ce film-là sans pouvoir en parler, ça serait un peu triste, selon moi, parce qu'on peut tellement dégager des points de vue infini de ce film-là que la discussion par la suite, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante à avoir.
Oui, et pour paraphraser Xavier Dolan dans une des choses intéressantes qu'il a dit, qu'aller voir un film, c'est grégaire, hein, c'est une activité sociale.
Voilà. Ben oui, après ça, vous allez prendre une petite bière, un petit café, vous jaser, un petit beignet, un petit chocolat.
Ben voilà.
Parlant de Monsieur Dolan, une certaine influence de lui dans ce film-là, j'ai trouvé, et on se le cache pas, c'est son père, en fait, qui fait la narration. C'est lui qui fait la narration, donc je trouvais que c'était un beau rappel. On n'est pas dans du Xavier Dolan, mais on a quand même un petit...
Ah bon, OK. Excellent. Donc, je rappelle, le film s'appelle Wolf. Merci à tous. On a déjà plus de temps. C'est la fin de cette émission de Cinébranche. On a passé tout le temps.
Ça n'a aucun sens, on a débordé.
C'est magnifique. Donc, voilà, je suis content d'avoir quand même... qu'on ait pu aller si loin avec cette critique. Restez avec nous la semaine prochaine. En fait, restez pas avec nous.
Oui, restez avec nous, systématiquement, avec nous.
Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition de Cinébrunch. Donc, même heure, samedi 11h. Sinon, on est en rediffusion à tous les mardis à la même heure. Vous pouvez aussi nous écouter sur notre site web cinébrunch.com ou en balado-diffusion via nos différentes plateformes Google Play, iTunes et compagnie, via votre téléphone intelligent. Mon nom est Jim Boulay en compagnie d'André-Jean Rouleau et Mélina Lopez-Nadeau. Merci d'avoir été avec nous pour cette semaine et on se dit à la semaine prochaine pour un autre Cinébrunch. Même brunch chaîne, même brunch heure.
Excellent, merci beaucoup. Bonne semaine à tout le monde.
Bonne semaine.